La maîtresse remarqua les compétences de Tristan. C'est ta maman ou ton papa qui t'a appris à lire et écrire?
Non, c'est moi.
Ils sont au courant?
Oui.
Je pourrais leur proposer de te faire sauter une classe?
Non.
Pourquoi?
Je préfère rester avec vous.
Tu ne t'ennuies pas?
Non. J'aime jouer avec les autres.
Madame Vernier réfléchit. Ce que Tristan appelait jouer avec les autres consistait plutôt à les regarder jouer ensemble. Après tout, elle avait le droit d'y trouver du plaisir. Néanmoins, elle tenta l'expérience. Et si tu allais dessiner avec Marie-Laure et Thierry?
Pourquoi?
Sachant à qui elle avait affaire, la maîtresse eut la réponse préférée de l'intelligence.
Pour voir.
La petite respira un grand coup et rejoignit les dessinateurs qui l'accueillirent sans rechigner. À cet âge, ne pas être repoussée par le groupe constitue une victoire considérable. Tristan commença sa vie sociale. Elle s'aperçut qu'on l'appréciait et en éprouva autant de joie que d'étonnement. Il n'y avait pourtant rien de stupéfiant à cela. Elle était agréable, inventive, attentive et dénuée de sensiblerie. Quand on l'attaquait, elle riait. Bientôt, elle prit des initiatives. Au lieu de se fondre dans les bandes les plus faciles, elle choisit les individus isolés. Elle élabora une technique d'approche. Il s'agissait de s'asseoir par terre, à proximité d'un tel, et de s'atteler à une tâche quelconque. À mi-parcours, elle s'interrompait et appelait à l'aide.
« Dimitri, les nuages, c'est quelle couleur ?»
Ou
« Sandra, le toit en Lego, j'y arrive pas !»
Tristan ne tarda pas à se passionner pour les êtres compliqués. Elle s'était longtemps représentée, sans le formuler, comme une personne à problème. Grâce à sa popularité inattendue, elle découvrit qu'il n'en était rien. Si elle était sortie si aisément de sa prostration, il n'y avait aucune raison de croire que d'autres cas fragiles résisteraient à l'intégration. En fin de compte, à part chez elle, elle ne se sentait plus jamais exclue. L'entourage de Florent et Nora commérait bon train. Ceux-là, à les voir, on croirait qu'ils sont en couple depuis seulement 15 jours. L'arrivée de la petite n'y a rien changé. Ils ont tiré le numéro en or. Le genre de gosse sans histoire avec qui on n'a pas d'ennui. À l'école, à la maison, elle est sage comme une image.
Elle a 4 ans. Il pourrait lui faire un petit frère ou une petite sœur.
Exactement. Et ne gagneront pas au loto 2 fois de suite.
On leur parla du drame de l'enfant unique. Il était prouvé que l'absence de fratrie constituait un terrain propice à la dépression. Par ailleurs, il valait mieux ne plus trop attendre. La fécondité de Nora ne tarderait plus à décliner. Ces propos perturbèrent les parents. Nora n'avait pas tellement envie de revivre une grossesse et un congé maternité. Tristan voulait-elle un petit frère ou une petite sœur? Elle lui posait la question. L'enfant ouvrit des yeux démesurés en disant
« Ah oui ?»
Elle, qui aimait tant être la marraine de Cosette, jubilait à l'idée de devenir mieux encore. Une sœur. Florent intervint.
« Si nous avons ce bébé, tu nous aideras. Tu donneras le biberon la nuit. »«
Oui ?»«
Tu changeras ses langes ?» demanda Nora.
« Oui ?»
Sentant que l'on doutait encore de sa bonne foi, Tristan déclara
« Je voudrais que le nouveau bébé dorme dans ma chambre. »
Convaincus, les parents se mirent à l'ouvrage. Comme chaque hiver, on fêta Noël chez mamie. Florent se leva avant le dessert, réclama le silence, porta un toast et s'adressa à sa fille. Tristan, cette année, le Père Noël aura du retard. C'est à la fin de l'été que tu recevras ton cadeau, un petit frère ou une petite sœur. La fillette poussa un cri d'excitation. Mamie applaudit.
Vous êtes fou, décréta Tati Bobette. Avoir un môme après une merveille comme Tristan, c'est de l'imprudence.
La cantine se moque du réfectoire, dit Nora.
Rien à voir, les mouflets ne sont pas des chefs-d'œuvre.
Les enfants écoutaient cette conversation sans comprendre.
Mamie y coupa court. Allons, buvons à cette excellente nouvelle. Pendant le retour en voiture, Tristan réfléchit. Pourquoi Tati Bobette ne se réjouit-elle pas de l'arrivée du bébé? Elle a peur que tu t'occupes moins de ta filleule. C'était donc ça? Vous pourriez m'envoyer chez elle jusqu'à l'arrivée du bébé? Je m'occuperai de Cosette. Les parents échangèrent un regard. Tristan sentit qu'ils étaient tentés. Ma chérie, tu es sûre? C'est un peu difficile chez Tati Bobette. Elle habite à côté de l'école. Si j'ai un problème, j'appellerai la maîtresse. L'argument, pour bizarre qu'il fût, parut les convaincre. À la maison, ils téléphonèrent à Bobette. Celle-ci poussa des cris de joie à l'idée de recevoir sa nièce. Tristan devina que la tante disait quelque chose comme « Elle ne va pas trop vous manquer pendant tout ce temps ?» Car papa répondit « Tu sais, Nora est très fatiguée par la grossesse. Ça la reposera de ne plus s'occuper de la petite. » La petite en question se surprit à penser que maman ne s'occupait pourtant pas d'elle et que son absence ne constituerait pas un repos. « Ils vont être contents sans moi », conclut-elle avec tristesse. Mais elle eut la sagesse de se dire que Tati Bobette, elle, serait trop heureuse de sa compagnie. Quand on la conduisit chez sa tante, on la regarda comme si elle partait à la guerre. Nora devait avoir un peu mauvaise conscience car elle déclara « Si c'est trop dur, tu nous appelles. On viendra te chercher. » En vérité, Tristan adora son séjour de 8 mois chez sa tante. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à faire, mais Tati Bobette était géniale. Elle apprit à sa nièce à se servir de l'ouvre-boîte. Après, elle lui dit « Voilà, tu es la cuisinière maintenant. » Elle lui donnait chaque jour son porte-monnaie et lui demandait de choisir le repas du soir en rentrant de l'école. Tristan trouva cette responsabilité fabuleuse et prit son rôle très au sérieux. Au supermarché, elle achetait des boîtes de raviolis, de petits pois ou d'autres plats mystérieux. Dans la cuisine de Tati Bobette, elle ouvrait les boîtes et en chauffait le contenu. Elle mettait le couvert et appelait à table. Ses cousins s'asseyaient émerveillés. « Depuis que tu es là, nous mangeons chaud !» la complimenta Tati. « Qu'est-ce que tu cuisines bien ?» Quand elle n'était pas à l'école, Tristan jouait avec sa filleule. Elle avait une passion pour Cosette, qui le lui rendait bien. Les garçons avaient des jeux de brutes. Ils se poursuivaient pour se rosser. Tristan rapportait de l'école du papier et des crayons de couleur. Elle apprit à la petite à dessiner. À force de voir les deux fillettes penchées sur leurs dessins pendant des heures, les trois cousins soupçonnèrent que cette activité pouvait présenter quelque intérêt et s'y essayèrent. Tati Bobette appelait régulièrement sa sœur. « Ta fille est une merveille. Depuis qu'elle est là, les garçons ne se bagarrent presque plus. Cosette n'a jamais été si heureuse et la cuisine est rangée. Comme elle doit te manquer. » Tristan devina une réponse peu convaincante. « Est-ce que tu veux lui parler ?»« D'accord, je lui dirai. On t'embrasse. » Tati raccrocha. « Ta maman est trop fatiguée pour te parler. Tu lui manques beaucoup. Elle t'embrasse très fort. » Tristan se demanda en quoi parler au téléphone pouvait être fatigant. Tati Bobette, elle, parlait à sa nièce. Elles avaient de vraies conversations. « Tristan, est-ce que les garçons, ça doit aller à l'école ?»«
Ah oui, la preuve, ils y vont. »«
Regarde leur carnet de notes, tu changeras d'avis. »
La nièce regarda et fronça les sourcils. Les notes étaient désastreuses.
« Moi, je crois que l'école, c'est pas pour les garçons, » dit Tati.
Tristan réfléchit. Jackie était dans la même classe qu'elle. Non seulement il n'apprenait rien, mais il dérangeait tout le monde.
« Veux-tu que j'apprenne à lire aux garçons ?»
demanda-t-elle à sa tante.
« Tu ferais ça ? Oh ouais ?»
Bobette n'eut même pas l'air étonnée que sa nièce sache lire. Elle prêtait à cet enfant des pouvoirs sans limite. Et c'est ainsi que la fillette de 4 ans et demi enseigna la lecture à Niki, 7 ans, à Alain, 6 ans, à Jackie, 4 ans et demi, et dans une moindre mesure à sa filleule de 30 mois qui assista aux leçons avec une attention extrême. De quelle méthode usa Tristan ? Difficile à préciser. Elle inscrivit le mot « ravioli » en grand caractère sur une feuille de papier et le donna à observer, expliquant lettre par lettre, puis demanda de le répéter. Elle saisit ensuite une boîte de conserve, gagnerait celui qui reconnaîtrait le mot en premier. Le deuxième mot fut « bière », le troisième « télévision ». Les garçons éprouvaient une perplexité saine à l'égard de cette gamine. Agacés de l'admiration de leur mère pour cette cousine, ils ne voulurent pas se laisser distancer. Tristan avait à ce point compris ce mécanisme qu'elle s'en servit pour leur enseigner l'écriture. « C'est comme le dessin, » dit-elle. « Si vous voyez que j'ai dessiné une maison, qu'est-ce qui vous empêche de la dessiner aussi ?» Avant la fin de l'année scolaire, le retard des deux aînés était rattrapé et Jackie avait cessé d'être uniquement la nuisance des maternelles. Tati Bobette raconta à sa sœur au téléphone les exploits de sa nièce. Nora écoutait d'une oreille distraite. Quand elle eut raccroché, elle dit à Florent « La mythomanie de ma sœur ne s'arrange pas. D'après elle, notre fille a appris à lire et à écrire à ses mômes. » Ils éclatèrent de rire et poursuivirent l'interminable lune de miel qu'ils dégustaient ensemble. Leur bonheur amoureux les empêchait de remarquer qu'ils délaissaient leur fille. Comment ce constat eût-il pu les effleurer? Ils avaient à y opposer un argument volumineux, le ventre de Nora. N'était-il pas de bons parents d'avoir un deuxième enfant, rien que pour leur premier? Si c'est un garçon, nous l'appellerons Roland, dit-elle. Oui, j'aime beaucoup. Et si c'est une fille, Héloïse. Tu es sûre? C'est joli, mais un peu médiéval. Tu voudrais quoi pour une fille? Laetitia. Le 9 août 1978, naquit Laetitia. Elle est belle et brune comme toi, sourit Florent. Il alla chercher sa fille chez sa belle-sœur qui attendait impatiemment. Je t'emmène voir ta petite sœur. Lorsque Tristan arriva dans la chambre d'hôpital, elle sut qu'elle était en train de vivre le moment clé de son existence. La sensation du sacré était si forte qu'elle avait du mal à respirer. Entre les bras de maman, il y avait un bébé minuscule. Bonjour Tristan, je te présente Laetitia. Laetitia, répéta l'enfant qui n'avait jamais rien entendu d'aussi beau. Tu veux la prendre? Je peux? Oui, c'est ta sœur. Je l'ai faite pour toi. Le cœur battant à se rompre, Tristan accueillit dans ses bras les 3 kilos les plus précieux de l'univers. Deux âmes se découvrirent et résonnèrent l'une en l'autre. Deux planètes s'alignèrent de manière si exacte que s'éleva, audible pour ses seuls enfants sonnes, une musique qui ne devait jamais s'assourdir. Ce phénomène mi-son, mi-lumière se répercuta de l'une à l'autre 60 fois par minute et pour les siècles des siècles. Tristan posa le bébé sur sa poitrine et regarda son beau visage. La nouveau-née entr'ouvrit les yeux et sourit.
Elle ne te voit pas encore et sourire n'a pas de signification pour elle, dit Florent.
La petite fille n'entendait que la symphonie qui commençait. Elle savait que Laetitia vivait la même chose qu'elle. Les deux âmes ne cessaient d'échanger ce signal qui s'appelle l'amour. Tristan aimait ses parents, sa tante et ses cousins. Ce qu'elle inaugurait en cet instant était d'une espèce autre. Il n'y avait pas plus étrange. Il s'agissait de reconnaître ce que l'on connaissait le moins. Cela s'exprimait par un rayonnement oblique qu'elle avait l'impression de distinguer si elle plissait les yeux. L'amour entre les deux sœurs n'était aucunement une transposition de l'amour entre Florent et Nora. Ce dernier appartenait à une catégorie, l'état amoureux, qu'il ne s'agit pas d'amoindrir. Entre Tristan et Laetitia se produisit l'amour au sens absolu, l'amour hors catégorie, un phénomène d'autant plus puissant que non répertorié. À la fois tout l'amour et toute la liberté. Il échappait à l'altération des classifications. Ainsi,
Laetitia naquit dans la plénitude quand Tristan la découvrit à l'âge de 4 ans et demi. Laetitia ignora que le cœur pouvait crever de faim. Tristan ne put jamais l'oublier. En même temps que leur amour, apparut un hiatus. Laetitia n'aurait jamais l'angoisse de ne pas être aimée. Tristan la conserverait éternellement.